c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Bulle, la radio de la Genêt avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec Real Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Beauvais près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur real-chocolat.com. Real Chocolat fait naître la gourmandise.
Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot et Garonne sur lucien-georgelin.com.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Bulle, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire, eh bien, de cette nouvelle émission de Chute, on écoute la télé, l'hebdo, eh bien, nous allons consacrer une large partie de cette émission à la sortie du très beau film de Sarah Souko, Les Éblouis. Ça sort mercredi au cinéma. On va recevoir Sarah d'ici quelques tout petits instants, juste après les audiences, et elle sera accompagnée, juste après en deuxième partie, de Céleste Brunkel, la jeune révélation du film, et Jean-Pierre Darroussin, qui sera notre invité également exceptionnel. Deuxième partie de cette émission consacrée au lancement du bazar de la charité. La série arrive ce soir sur TF1. C'est l'événement de cette saison pour TF1. Fiction à gros budget. On va en parler avec Iris Boucher et Alexandre Laurent, le réalisateur et la productrice. Et nous aurons le plaisir de recevoir une des trois héroïnes également aujourd'hui. C'est Camille Lou qui sera notre invitée. Vous l'avez compris, ça va être plutôt chouette aujourd'hui entre Les Éblouis et le bazar de la charité. On va passer de bons moments avec tous nos artistes. Mais juste avant, eh bien, on va, comme d'habitude, passer en revue les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et on commence par lundi dernier avec sur M6, L'amour est dans le pré, qui arrive en tête des audiences avec 3 878 000 téléspectateurs et 16,4% de part de marché. Déception pour TF1 avec Itinéraire d'une maman braqueuse qui arrive seulement deuxième avec 3 448 000 téléspectateurs et 15,8% du public. Piège blanc sur France 2 arrive en troisième position avec 2 355 000 et 10,2% de part de marché. Et sur France 3, Après la guerre, L'impossible oubli, 1919-1920, et bien déception, seulement 8,1% de part de marché et 1 886 000 téléspectateurs. Et mardi, une fois encore, le capitaine Marlowe écrase tout sur son passage. France 3 arrive en tête avec 23,3% du public et 5 332 000 téléspectateurs. Soit sur TF1 arrive deuxième avec 3 551 000 téléspectateurs et 15,8% de part de marché. Talonné de près par La France a un incroyable talent avec un beau score, 16% du public et 3 300 000 téléspectateurs. Déception encore une fois pour Apocalypse, La guerre des mondes, avec seulement 8,9% de part de marché, 2 129 000 téléspectateurs. France 2 n'arrive qu'en quatrième position. Mercredi, Good Doctor sur TF1 arrive en tête, 4 181 000 téléspectateurs. La série Nina est stable par rapport à la semaine dernière, 3 156 000 et 13,6% du public. Talonné pas très loin par Le Meilleur Pâtissier, 14,1% de part de marché, 2 724 000 téléspectateurs. Jeudi, il y avait du foot sur M6 et donc là, M6 écrase la concurrence avec les éliminatoires de l'Euro 2020 France-Moldavie. 5 500 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous et 24,1% de part de marché. Du coup, TF1 est deuxième avec Coup de foudre à Saint-Pétersbourg. La fiction avec Thierry Neuvik et Elena Noguera arrive avec seulement 3 424 000 téléspectateurs et 14,8% de part de marché. France 3 avec Mal de Pierre fait seulement 9,1% de part de marché et 1 947 000 et est talonné de près par France 2 et Envoyé spécial avec 1 902 000 téléspectateurs. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré aux Éblouis, le film de Sarah Souko, qui est avec nous. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est très heureux de te retrouver, Sarah. On t'a vu pour des téléfilms, on t'a vu évidemment pour Discount. C'est un peu la muse de Louis-Julien Petit. Je sais que tu joues beaucoup pour lui. Et la première réalisation est un film, sans faire de jeu de mots, éblouissant, avec toute cette famille qui se trouve embrigadée un peu dans une secte catholique. Et cette lumière, interprétée par Céleste Brunkel, qui essaye de sortir contre vents et marées cette famille de là. C'est vraiment une première réalisation et une première histoire que tu as trouvé. Comment le sujet? Comment ça t'est venu?
Bah, c'est d'après une histoire personnelle. Hein. J'ai grandi dans cette communauté pendant plus de 10 ans. Et je sentais très vite, quand j'ai grandi, après, qu'il y avait une matière cinématographique symbolique énorme dans cette histoire, parce que je trouve que c'est un sujet très fort, qui est rare, on connaît pas, les gens ne savent pas ce que c'est la secte, on imagine des choses, on pense au temple solaire, on pense à la scientologie, mais en fait il existe en France des tas de communautés et de dérives sectaires dans ces groupes, dans ces groupuscules. Et ce que j'aimais à travers cette histoire, c'était raconter le conflit de loyauté d'une jeune fille face à ses parents. Qu'est-ce que ça fait quand on est adolescent et qu'on essaie de grandir, de voir ses parents devenir fous, devenir embrigadés, perdre leur libre arbitre, presque redevenir comme des enfants. Et je trouve qu'il y avait vraiment une matière à raconter un film, à raconter une histoire romanesque, et qu'on allait être embarqué quoi par ces enfants et leur insolence, leur luminosité, leur force. Oui, c'est complètement d'origine autobiographique. Après, j'ai vraiment eu à cœur d'en faire une fiction et de me détacher de cette histoire-là aussi pour raconter un film. Quand je dis romanesque, c'est que je voulais avoir la possibilité de traiter le plus de choses possible, tout en restant une distance qui était la mienne. C'était très important pour moi de garder une forme de pudeur, une forme de retenue. J'avais pas envie de faire un film d'horreur. Donc quand on réalise, on fait des choix. Et j'avais vraiment à cœur qu'on s'attache au personnage des parents, parce que je pense que tout le monde peut rentrer dans ce genre de groupe. Et quand on sait pas, et là on voit que très simplement, ce sont des gens qui sont un peu fatigués par la vie, ils sont à la quarantaine, 4 enfants, la femme elle a pas tellement de travail, mais en même temps il n'y a pas de misère. Et c'est tout un tissu comme ça de conjonctions qui font qu'ils se retrouvent attirés par ce groupe qui est plein de bonnes valeurs, qui prône la charité, la solidarité. On est dans un monde de plus en plus dur, de plus en plus individualiste. Et tout à coup ils trouvent comme ça un tas de gens qui les accueillent, qui sont chouettes. Et voilà, et la dérive et le basculement, j'avais vraiment envie de le montrer au travers des yeux de cette adolescente. Parce que c'est pour moi aussi une manière de dire comment est-ce qu'on juge nos propres parents, même nous en tant qu'adultes. C'est très dur de condamner ses propres parents, c'est dur de se dire ils déconnent là, qu'est-ce qui se passe.
Et puis de rester, quand on est embrigadé un peu comme ça, de rester les yeux ouverts. Parce que voilà, dans cette histoire, évidemment, le personnage que joue Céleste, Camille, est la seule à garder les yeux ouverts.
Son petit frère aussi, son petit frère Mathieu, joue par Armand Rayom. Oui, c'est vrai, c'est une adolescente, et je pense que les adolescents sont très forts, beaucoup plus intelligents et perspicaces que parfois on va nous le faire croire, et je pense que c'est par eux que l'avenir sera sauvé, la planète. Elle est en plein combat, elle est en pleine recherche, c'est un parallèle avec un... C'est ça l'adolescence, grandir, c'est se positionner. Donc effectivement, là, c'est dans un cadre extraordinaire, puisqu'elle voit ses parents qui passent complètement de l'autre côté.
On va en parler avec elle dans quelques instants, d'ailleurs, on va l'accueillir. Je voulais vraiment mettre le personnage de Camille à l'honneur dans cette émission, c'est important. Comment tu l'as trouvé justement, Céleste? Comment t'as trouvé tout ton casting?
Cette pépite, grâce à une directrice de casting enfant qui s'appelle Elsa Pharaon. Et on a reçu plus de 1000 candidatures. Et elle est arrivée en casting la première fois et elle nous a éblouis, si on peut le dire. Après, on a fait un long casting, ça a duré des mois, parce qu'il fallait vraiment éprouver comme ça toutes les capacités. Vous avez vu, le personnage est tellement complexe. Et très vite, on s'est dit, mais elle est dingue, cette fille, elle est dingue. Céleste Brunkel, elle a quelque chose où elle se donne entièrement à la caméra et en même temps, elle retient, elle est dans une pudeur, elle est dans une élégance tout le temps. Et puis, elle est magnétique, je crois que la caméra l'aime. Elle a un regard tellement fort et elle s'est retrouvée... à porter sur ses épaules un premier rôle et je trouve qu'elle elle habite et elle nous emmène comme ça dans son combat en permanence quoi.
Les choix de Eric et Camille pour jouer les parents.
Alors Camille Cotin est une actrice que j'adore depuis toujours, avec qui j'avais travaillé au théâtre. Je savais qu'elle avait en elle une profondeur, une puissance et une douleur qui n'avait pas forcément été montrée dans toutes les comédies qu'elle avait faites, etc. Et je trouvais que c'était un choix très fort pour ce personnage-là de mère qui bascule. Je voulais pas qu'on soit tout de suite, qu'on sache pas vers où ça va aller. Je trouve qu'elle apporte ça, Camille. Je trouve que c'est une comédienne extraordinaire. Et Eric Aravaca aussi me touchait beaucoup. Et pour ce personnage de père qui est à la fois amoureux, qui est lâche, mais qui aime sa femme et... Il y a une ambiguïté, quoi. Elle bascule, mais lui, jusqu'au bout, jusque très loin, on se dit, là, ce père-là. Et je trouve qu'il est extrêmement touchant, Eric. Moi, il me bouleverse. Et j'avais besoin qu'on soit avec ses parents, non pas dans un jugement au bout de 5 minutes, mais plutôt qu'on les comprenne. Et je trouve qu'ils ont une très grande part d'humanité, tous les deux.
Le plus beau souvenir de tournage? Parce que le film a été tourné en Charente, en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un bon point de plus, ça. Ça, c'est bien, toujours. On a une belle région et une belle terre de tournage.
C'est clair. 1000 décors possibles dans cette région. Il y a tout. Et en plus, on est super bien accueillis. On avait beaucoup de figurants qui sont extraordinaires. Humainement, c'était très fort. Mon plus beau souvenir de tournage, je vais dire le dernier jour, mais parce que c'était une émotion folle de terminer ça. On a eu une équipe extrêmement soudée, très attentive, très concentrée, en même temps joyeuse. Je pense que tout le monde faisait ce film. Pour moi, c'était une nécessité absolue de faire ce film, et je pense que toute l'équipe aussi, petit à petit, tout le monde était ensemble pour la même chose. Donc forcément, quand on a fait le dernier plan, il y avait une émotion très forte chez tout le monde en se disant wow, « Waouh, ça y est, on l'a fait
!» Et deuxième écriture, le montage, voilà, et arriver jusqu'au bout, jusqu'à la sortie du film. Comment tu te sens là, quelques jours de la sortie du film qui a été présenté? T'as pu avoir déjà quelques réactions puisque il a été présenté fin août au festival du film francophone d'Angoulême.
Ouais, on a eu des pour l'instant toutes les projections en première, c'était fou, les réactions sont très fortes, les gens sortent bouleversés, donc c'est extrêmement gratifiant parce qu'on se dit. Enfin, moi, ça me touche énormément de voir tous ces gens touchés, de voir ces gens qui ont été embarqués dans cette histoire, qui ont pleuré, qui ont ri. Les réactions sont très fortes dans les salles. Je les ai senties quand je suis restée. Donc, on a peur avant la sortie d'un film. On espère que les gens vont se déplacer, auront la curiosité. Mais ça m'appartient plus trop. Mais on est fébrile, quoi, autant d'excitation que de peur.
Le film sort dans quelques jours. C'est le 20 novembre, précisément. Maintenant, il va appartenir au public. Est-ce que tu as déjà des choses en tête pour la suite? Est-ce que tu as envie de réaliser à nouveau, de faire un deuxième film?
Bon, je pense, parce que maintenant que j'ai essuyé les plâtres, c'est une histoire difficile, pourquoi pas de faire une comédie, pour l'instant, un truc plus léger. En tant qu'actrice, là, j'ai des projets, donc c'est chouette, je vais repartir tourner un peu. C'est plus cool d'être actrice, on fout rien.
t'attends entre les prises.
C'est ça, on travaille un peu, on apprend trois lignes. Non, mais oui, j'aimerais bien refaire quelque chose. Il faut que je trouve la même nécessité, parce que c'est long, il faut avoir cette envie de porter pendant plusieurs années un film. Donc, je prends le temps de réfléchir, et puis... voilà, j'espère que je vais.
Tu nous reviens vite, j'espère, pour réitérer ce coup d'essai.
Voilà, exactement.
Les Éblouis, ça sort au cinéma, ne le ratez pas, on va écouter tout de suite la bande-annonce. Merci à toi Sarah, on va accueillir Céleste dans quelques instants.
Merci beaucoup Alain, merci à vous.
Vous faites partie de la communauté de la Colombe, c'est ça?
Oui.
Et en quoi ça consiste exactement?
On mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier.
Ça doit être spé, non?
Un peu. On propose d'être leur comptable.
Maman ?
Je m'inquiète pour maman.
Bah, tu pries pour elle. Le Saint-Esprit l'aide à guérir.
T'y crois, toi ?
Ça se passe bien dans ton couvent ? Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la.
Mais tu vas te calmer, Mère Teresa. Va rejoindre tes moines !
Pauvre fille !
Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eue votre fille, ça me préoccupe.
On va prier sur elle.
Jésus fait que les parents ne rentrent plus jamais.
Et Mathieu a ne plus puer du cul.
Tu vois pas dans quel état ils te mettent?
Tu arrêtes maintenant!
Lâche-moi, toi!
Non mais c'est quoi ce délire? Vous êtes même pas pratiquant!
Vous êtes dans le jugement, Jean-Jacques.
Mais c'est de la vie des gosses dont il est question, merde!
C'est pas normal, Camille.
T'inquiète.
Putain, mais arrête de faire comme si tout était normal.
C'est semblant.
Je veux plus faire semblant.
Pour sortir. On se ressent.
Camille, tu as fait entrer dans notre communauté la suspicion et le vice. Nous écoutons ta demande de pardon.
Non.
Et notre spécial Les Éblouis va continuer d'ici quelques instants. Céleste Brunkel et Jean-Pierre Daroussin vont venir nous rejoindre. Alors surtout, ne bougez pas. On revient juste après ça. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Eh bien, on va continuer la suite, hein, Les Éblouis. Vous savez, c'est le film qui sort au cinéma. On vient d'en parler avec Sarah et on retrouve Céleste Brunkel qui est avec nous. Bonjour Céleste.
Bonjour.
On vous l'avait dit, hein, il y a quelques instants, chose promise, chose due, elle est avec nous, personnage de Camille. Un personnage tellement solaire dans ce film. Et ce personnage qui, en même temps, essaye de tirer ses parents, de tirer toute sa famille. Est-ce que c'est la seule? Où j'ai l'impression, Céleste, que Camille est la seule de la famille qui garde les yeux ouverts tout du long. Alors peut-être avec le personnage de Mathieu quand même un petit peu aussi, mais je trouve que c'est quand même vraiment elle qui essaye de tirer sa famille vers le haut.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, comme c'est l'aîné, il y a bien sûr le rôle de Mathieu qui a aussi qui voit aussi les choses comme elles sont. Mais lui, il est trop petit pour pouvoir se défendre, et même le rôle de Camille a du mal. Donc c'est ensemble aussi, c'est parce que seule elle peut pas le faire. C'est aussi avec Mathieu et le rôle de Boris, qui est quelqu'un d'extérieur, qui va, c'est eux qui vont l'aider à sortir sa famille de
cette impasse, effectivement. Comment tu es arrivée dans cette aventure, Céleste?
En fait, je fais du théâtre au Théâtre de l'Atelier à Paris, et il y a une casteuse qui était venue voir des jeunes gens pour le rôle.
Elsa?
Non, c'était... mais je sais pas, en fait, je l'ai même pas vue. Elle est arrivée sans se présenter, et elle est venue une demi-heure, elle est repartie. Et le soir, elle appelle mon père. Mon père me dit, ah oh, bah t'as un casting samedi. J'ai dit, bah quoi? je savais pas, on a mis du temps à faire le rapprochement. Du coup, j'ai fait un premier casting. Le lendemain, Elsa m'a rappelé cette fois-ci. Et après, j'ai vu Sarah en essai plusieurs fois, enfin beaucoup de fois, jusqu'à être prise, voilà.
C'était ton premier grand rôle au cinéma?
Ouais, c'était mon premier rôle, en fait.
Change du théâtre,
hein? Ouais, c'est vraiment différent.
Comment tu t'es sentie, premier jour de tournage, avec toutes les caméras autour de toi, les équipes techniques? Est-ce que tu imaginais ça? C'était ça pour toi, un plateau de cinéma?
Bah, en fait, je savais pas quoi m'imaginer, parce que je connaissais vraiment un univers que je connais pas, je connais personne qui vraiment fait ça. C'était très impressionnant, parce que tout le monde savait ce qu'il devait faire, tout le monde était à son travail, à faire tout ça très rapidement. Moi, j'étais là perdue comme ça, à pas savoir quoi faire. Et en fait, j'étais très très stressée au début. Et dès la première scène, après, bah, ils m'ont tout de suite mis à l'aise, et après, bah, ça allait.
Quelle a été pour toi les scènes les plus impressionnantes, ou les meilleurs souvenirs de tournage que tu peux nous raconter?
Bah, en fait, comme c'est un drame, on a besoin sur le tournage d'être joyeux et de bonne humeur. Mais c'était souvent aussi avec le rôle de parents, Eric et Camille, qui à chaque fois s'insultaient. Enfin, c'était des rapports très drôles. Enfin, tout le temps dans l'ironie, en fait, dans le second degré. Et ça, c'était... après, je sais pas si je pourrais sortir une année comme ça, mais c'est toujours sur le second degré, et c'était... ouais. Voilà.
Connaissant Camille Cotin un petit peu, je suis pas très très étonné de ce que tu nous racontes. Tu l'avais vue déjà au cinéma dans d'autres rôles, Camille Cotin?
Bah, comme beaucoup, je l'ai découvert dans Connasse, et je trouvais très bien déjà, mais
T'es impressionnée face à elle?
Bah, en fait, ça allait. Enfin, je pensais, mais je l'avais pas trouvé. On s'était vu avant le tournage. On s'était vu d'abord Sarah, elle et moi. Et en fait, je l'ai vu arriver, comme ça, oh, salut, Céleste, ça va, machin. Enfin, c'était pas du tout... Non, ça allait vraiment.
Bon, dis-moi, est-ce que ça t'a donné des envies? Est-ce que t'as envie de continuer? Parce que je suis sûr que ce film va t'ouvrir plein de portes, plein de rôles.
Bah, en fait, déjà, par Elsa Pharaon, elle m'a déjà mis sur d'autres castings. J'ai pas...
Ah, ça a pas tardé, alors.
Non, mais j'ai pas d'agent, mais après, là, c'est... Enfin, s'il y a d'autres belles opportunités comme ça qui s'offrent à moi, bah, je vais pas refuser, mais ouais, j'aimerais bien continuer, mais bon.
Quand t'as passé le casting, quand t'as lu l'histoire... Que t'as lu le scénario, tu t'es dit quoi au premier abord?
Le scénario, c'était pas une grande surprise, parce que j'avais déjà fait beaucoup d'essais, et elle m'avait déjà un peu raconté l'histoire.
Sarah t'avait raconté son histoire aussi à elle?
Oui, mais c'était un peu, j'ai pas trop posé de questions pour savoir ce qui est vrai, ce qui est, c'était plus, je me suis basée sur cette histoire-là, qui est comme une histoire de fiction, qui est très rapprochée de la sienne, mais, donc, quand j'ai lu le scénario, je m'attendais un peu à ça, mais en fait, je l'ai lu d'une traite, et c'était, j'étais vraiment dedans, je voyais un peu l'univers, et j'étais très, et à la fin, un peu sous le choc. Oui. Moi, je connais pas du tout les communautés religieuses, je sais pas. Et du coup, j'ai appris, j'ai bien appris avec ça.
Première projection, premier retour du public, puisque le film a été projeté au Festival du film d'Angoulême en août dernier. Quels ont été pour toi les retours? Qu'est-ce que les gens sont venus te dire le plus souvent, et qu'est-ce qui t'a le plus ému?
Bah, que les gens étaient bouleversés. Et ils étaient pas, parce que c'était trop tôt pour dire je trouve ça bien, je trouve ça mal, mais ils étaient là, c'est bouleversant, c'est super. Et aussi les retours qu'ils donnaient à Sarah, et c'était pas, je pensais que ça allait être plus Sarah aussi, que ça allait être plus dérangeant pour elle à dire mais alors ça c'était vrai, machin. Mais les gens étaient, sont assez respectueux, et ils étaient tous très contents. Et même dans la rue, je voyais des gens comme ça qui disaient ah bah je vous ai vu, bravo, aussi qui me disait belle continuation et qui était sincère, et ça c'était vraiment important.
Tu m'as beaucoup marqué sur certaines scènes. On en a parlé avec Sarah il y a quelques instants, et justement sur cette scène où tu découvres les horreurs qui sont faites à ton petit frère. Il y a même pas besoin que la caméra rentre dans la pièce, en fait on voit rien qu'à la profondeur de tes yeux, et Alex l'expression de ton visage, on comprend la gravité, on comprend ce qui se passe et comment t'as réussi à aller exprimer ça. C'est aussi le talent du directeur d'acteur, évidemment, qui est Sarah. Mais voilà, t'as envoyé quand même du lourd. Et ça, tu t'en es peut-être pas rendu compte sur le coup.
Bah non, mais je trouvais ça bien qu'elle montre pas la scène.
C'était important, oui, même.
Parce que, bah je sais pas. Enfin, c'est Sarah qui m'a dit. Enfin.
Je pense que c'est que le début, en tout cas, d'une aventure pour toi. On se reverra, j'en suis sûr, très vite, dans Chute en écoute la télé. Retenez bien son nom, Céleste Brunkel. C'est une graine d'actrice que vous allez voir dans Les Éblouis. Et je vous dis, vous allez être éblouis, j'en suis sûr, dans le film de Sarah Souko, qu'on va très vite découvrir. C'est le 20 novembre au cinéma. On va se requitter avec un petit extrait. Et merci infiniment, Céleste, d'être venue nous voir.
Merci.
C'est n'importe quoi, il est malade, ce type.
Oh, attends, tu parles pas comme ça.
Non, mais c'est complètement débile, jamais j'arrêterai le cirque. J'en ai trop besoin, je m'en tape de leur communauté à la con.
Mais je... Tu penses à nous, là, un petit peu?
Non, mais c'est évident qu'elle va pas arrêter son école de cirque juste parce qu'ils ont pas compris son sketch. Enfin, ça sert à rien d'en discuter.
Mais enfin, si, ça sert. Mais tu m'entends pas? Elle non plus, elle m'entend pas, mais enfin, qu'est-ce
maman,
que c'est ça?
Calme-toi, je veux pas arrêter le cirque, c'est tout.
Mais oui, mais ma chérie, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Tu crois que ton père, il veut enseigner dans son lycée de merde? Tu crois pas qu'il a envie de passer son agrég? Tu crois que moi, j'ai voulu avoir autant d'enfants?
Christine. Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va continuer à parler du film Les Éblouis qui sort mercredi dans les salles après Sarah Souko, après Céleste Brunkel, la véritable révélation du film. Nous avons le berger, c'est Jean-Pierre Daroussin qui nous rejoint pour terminer cette spéciale. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un rôle de méchant, on peut le dire en quelque sorte, un rôle de berger qui embrigade un petit peu toute cette famille. En plus, une histoire autobiographique, ce qui est vraiment quelque chose de très fort. Je sais pour Sarah qui est avec nous il y a quelques instants, mais pour vous, Jean-Pierre, comment vous avez pris cette histoire au niveau du scénario quand Sarah vous l'a proposé?
Ben, Sarah m'a proposé cette histoire il y a assez longtemps, parce que alors qu'elle était déjà en écriture, Sarah est quelqu'un que je connais par ailleurs parce qu'elle est actrice. Elle n'est pas avant d'être metteuse en scène, elle était je la connaissais en tant qu'actrice, puis je la connais aussi en tant que camarade dans la vie, comme ça. Donc elle m'en avait parlé d'histoire, je connaissais son histoire, je connaissais ce qu'elle avait vécu dans une société charismatique avec ses parents, avec ses frères et sœurs et tout ça. Et donc quand elle a eu le projet, j'étais assez vite au courant de ce qui se passait. J'étais très touché qu'elle me propose évidemment de jouer ce gourou, ce berger, le berger qui entraîne ses moutons vers le fait de se mettre à nu, de se dépersonnaliser, de quitter son identité habituelle, terrestre, quotidienne, pour essayer de se mettre au service d'une communauté, au service de... c'est ce personnage que je joue entraîne les gens vers la constitution de ce que lui pense être un monde qui est meilleur pour eux, parce que c'est un monde où ils vont devenir quelqu'un de nouveau et renaître et proposer aux gens de renaître. C'est curieux, mais souvent ça marche. De renaître quelque part, de renaître ailleurs, il y a quelque chose qui est évidemment tentant dans cette idée d'être quelqu'un d'autre. Quand on n'est pas totalement satisfait de ce qui nous entoure, de ce qu'on vit, tout ça, quand on vous propose de renaître à la vie sous une nouvelle identité, soit avec une nouvelle façon de penser, alors évidemment, au bout d'un moment, si on a un peu de recul, on peut voir que ça s'assimile un peu à une sorte de lavage de cerveau. Mais...
Comment vous êtes préparé à ce rôle, Jean-Pierre? Vous avez rencontré d'autres personnes aussi, pour sortir un petit peu aussi du cas de Sarah, mais d'autres personnes qui ont été embrigadées dans des sectes, qui ont été victimes de gourous?
Oui, alors évidemment, le gros avantage quand on travaille avec quelqu'un qui a vraiment vécu la situation, qui a intimement au fond d'elle des tas de petits détails, des tas de choses justes qu'elle a connues, elle peut nous faire partager son expérience, et aussi elle connaît des gens autour d'elle. Elle a fait venir des gens qui ont vécu ça, qui ont réussi à s'en échapper, qui ont réussi à en sortir. Et moi, elle m'a fait rencontrer quelqu'un qui lui-même était sur le point de devenir prêtre à l'intérieur d'une société comme ça, et donc qui avait une expérience à me faire partager tout à fait émouvante, d'abord parce que on sentait que pour lui c'était vraiment quelque chose de, ça avait été quelque chose de très fort et de très bouleversant dans sa vie. Il y avait cru beaucoup et ça avait été un grand choc. Mais il m'a fait d'abord prendre conscience, et puis il m'a aussi montré des écrits, des choses quelle est la méthode aussi, la stratégie pour arriver à constituer ce charme comment on opère ce charme sur les gens. Il y a des techniques, il y a des ces techniques, elles sont au point, elles sont écrites. Enfin, je veux dire, il y a des choses, il y a des enseignements pour ça. Donc c'était très très intéressant de se confronter à ça et puis après dans le jeu. Alors ça, c'était la perspective du personnage quand j'ai accepté. Mais après, dans le concret, quand on a commencé à travailler, eh ben, je dois dire que c'est un rôle où il faut, il y a un lâcher prise pour pouvoir faire sortir cette espèce de langue, cette espèce de chant improvisé où on est en transe, où on essaie de ressentir une parole d'au-dessus qui vous traverse pour pouvoir faire chanter les cordes vocales, vibrer les cordes vocales sur des sons et tout ça et qui font que quand on amène les gens à avoir cette vibration là, ils ont l'impression de vivre quelque chose de tout à fait extraordinaire, oui.
Moi, il y a eu des scènes qui m'ont marqué, hein, comme celle par exemple où vous êtes un petit peu au milieu, il y a tout un rond autour de vous, on demande effectivement à petite Camille de demander pardon pour ses péchés en quelque sorte. Comment on ressort d'un tournage comme ça? Est-ce qu'on a aussi besoin un peu de lâcher prise après les prises, c'est le cas de le dire, de se détendre un petit peu? Ou est-ce que l'atmosphère reste un peu lourde justement sur un tournage comme celui-ci?
Besoin de se relâcher, pas tellement, parce qu'on est dans le travail et donc... Le travail ne demande pas beaucoup de relâchement, en fait.
Faut rester concentré.
Oui, enfin, faut surtout continuer à chercher, à essayer de ressentir ou de. Oui, enfin, là, pour le coup, c'est vraiment une histoire de lâcher prise, d'être soi-même, essayer d'être un peu inspiré, transcendé, je dirais, transcendé par ce qu'on peut imaginer de ce que c'est que de cette croyance, de cette ferveur, quoi, de la ferveur qui peut animer quelqu'un. Voilà. Alors vous disiez que c'était un rôle de méchant au début quand vous avez présenté un peu mon personnage. Oui, c'est un rôle inquiétant.
Inquiétant, oui, plus que ça, oui.
Voilà, c'est un rôle inquiétant parce qu'on sent bien que cette ferveur, oui, elle est, oui, il y a une sorte de folie qui s'installe là-dedans. Et voilà, donc tout en restant très abordable, très d'apparence très normale et très très ouvert d'esprit et très accueillant. Ces gens évidemment ne font pas peur d'entrer. Il faut rester accueillant pour.
Mais je dirais même au début, on a envie de le suivre, hein. On a envie de croire en ce qu'il dit, hein, clairement.
Oui, bah c'est leur but.
C'est exactement ça. La rencontre avec Céleste, alors voilà, je lui ai dit il y a quelques minutes, hein, mais voilà, je l'ai trouvé incroyable dans son rôle, elle est quasiment de toutes les scènes. Elle a envoyé du très très lourd. Quand on est un comédien confirmé comme vous, avec des dizaines de films à votre actif, et qu'on donne la réplique à une jeune comédienne comme ça, qu'on voit quand même du lourd, qu'est-ce qu'on ressent? Une fierté aussi?
Quand on sait qu'évidemment c'est la première fois qu'elle le fait, tout ça, c'est toujours très émouvant de voir quelqu'un qui se lance, qui se jette, voilà, dans son innocence et dans sa candeur pour jouer tel qu'elle ressent les choses, tel que. Alors, je l'avais quand même rencontrée aussi un petit peu parce que Sarah avait voulu assez en amont aussi que elle avait un peu peur que peut-être que Céleste soit impressionnée de jouer devant des acteurs justement confirmés ou qui commencent à avoir un certain âge, que ça puisse l'inhiber un petit peu. Donc, on avait déjà fait des lectures, tout ça. On avait déjà un petit peu, on avait adouci un peu ce qu'elle pouvait imaginer de la rencontre. Même si, en fait, on s'aperçoit quand même, quand on me rencontre, on voit bien qu'il n'y a pas de quoi être inquiet tout de suite. C'est les personnages qui peuvent parfois être inquiétants, mais moi, je suis pas très inquiétant, hein, franchement.
Plutôt même sympathique.
Voilà, voilà.
Bon, Jean-Pierre, les projets pour 2020, est-ce qu'il y a des choses, d'autres choses qui vont arriver dans les mois à venir?
La semaine prochaine, le mercredi d'après, il y a la sortie de Gloria Mundi. Ça, on pourrait penser, c'est le film de Robert Guédiguian. Alors là, on est carrément dans le latin. Sic transit Gloria Mundi. Ainsi va la gloire du monde en latin. Vous voyez, c'est...
On va voir 2 semaines de suite au cinéma, du coup.
2 semaines de suite au cinéma, voilà.
Pour 2020, il y a déjà des choses qui sont tournées et qu'on va voir bientôt?
Il y a déjà des choses qui sont tournées. J'ai fait un film avec Lucas Bellevaux qui s'appelle Des Hommes, qui est en post-production. Et je pense que le film sera prêt aux alentours du début du printemps 2020, oui. Qu'on a tourné avec Gérard Depardieu et Catherine Fraud. Voilà.
Vous êtes toujours bien entouré, je vois. Merci en tout cas, Jean-Pierre, d'avoir été avec nous, d'avoir terminé cette spéciale Les Éblouis. C'est un film qui nous tenait vraiment à cœur aussi, et que je vous conseille vraiment d'aller voir mercredi au cinéma. On termine cette spéciale avec vous et puis on va se réécouter un petit extrait. Les Éblouis, c'est mercredi au cinéma. À bientôt, Jean-Pierre.
Merci, merci à vous. Au revoir.
Ça va, Camille, t'as bien dormi?
Ah ouais.
On a fait les fous dans le dortoir, c'était super.
Tant mieux. Qu'est-ce que tu penses du sketch que tu as joué hier soir?
J'étais contente d'avoir réussi à faire rire.
Et comment penses-tu que tu as fait rire?
Je sais pas. J'ai utilisé mon clown, je me suis moquée de moi-même. J'ai joué un sketch, quoi.
Tu as raison, Camille. Tu t'es moquée. Tu as tourné nos prières en ridicule.
Bah, désolée, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hein.
Je sais que tu n'as pas voulu être blessante. Mais ton seul souci de vouloir faire rire a tout balayé sur son passage, tu comprends?
Oui.
Est-ce que tu es heureuse de vivre avec nous dans le Seigneur?
Oui.
Eh bien, je crois que ton école de cirque est incompatible avec une vie dans le Seigneur.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va consacrer une large partie de nos coups de cœur télé aujourd'hui au bazar de la charité. Et on va démarrer évidemment pour nous éclairer un petit peu sur cette saga événement qui démarre sur TF1 avec Iris Boucher qui est avec nous, la productrice. Bonjour Iris.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et le réalisateur Alexandre Laurent. Bonjour Alex.
Bonjour.
Merci, je suis très heureux de vous retrouver tous les deux. C'est une saga événement, une saga romanesque en costume qu'on va découvrir sur TF1. C'est l'événement de cette saison, on peut le dire, je crois, avec des effets spéciaux époustouflants et surtout, eh bien, ce bazar de la charité qui est inspiré, évidemment, de cette vraie histoire, de cet incendie qui a ravagé le bazar de la charité en 1897.
Tout à fait, c'est le point de départ pour notre saga, comme vous l'avez dit. L'incendie est un moment très fort, c'est une grande partie du premier épisode qui va faire que les trois destins de nos héroïnes, interprétées par Audrey Fleureau, Camille Lou et Juliette Bonnat, vont basculer vers autre chose.
Alors on va suivre ce basculement et ces destins tout au long évidemment de ces quatre semaines qui nous attendent de diffusion. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, Iris, de faire cette saga incroyable sur cette histoire, sur cet incendie?
C'est pas moi, c'est Catherine Rambert, la scénariste qui est à l'origine du projet, qui a lu un article sur le fait divers de 1897, qui a trouvé ça très inspirant et elle avait raison. Et elle a commencé à réfléchir à une histoire qui serait la conséquence de cet incendie ravageur. Et elle a inventé ces trois personnages de femmes. Et après, avec Karine Sprotskowski, sa co-scénariste, elles ont inventé ces cheminements, ces trajectoires que Alexandre, après, a mis en scène merveilleusement.
Alors justement, pourquoi Alexandre? Parce que je crois, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des choses vraiment énormes ou des choses un peu spéciales à réaliser, c'est Alexandre. Le Secret d'Élise, je me rappelle, on traversait plusieurs époques dans la même maison avec un travail de décor incroyable. Et dès que je crois qu'il y a une dimension incroyable, Alexandre est le meilleur pour ça.
Vous avez répondu à votre propre question. Bah, Alexandre a un grain de folie, beaucoup de talent, énormément d'énergie. Et on s'est vraiment trouvé sur le Secret d'Élise avec une folle envie partagée, je peux dire ça, de retravailler ensemble. Et très sincèrement, le moment où j'ai lu le projet de Catherine Rambert, j'ai tout de suite pensé à Alexandre. Dès que j'ai eu un engagement de la chaîne, et je n'ai parlé à aucun autre réalisateur, c'était avec toi, et c'était tout de suite toi qui a dit oui.
C'était évident.
Sans avoir lu, en fait, moi, parce que je savais qu'avec Iris, en partant sur un projet comme ça, tous les moyens seraient mis en œuvre au service du projet. Ce qui est plaisant avec Iris, c'est qu'elle aime les belles choses, et qu'elle a envie de faire les choses bien, et que du coup, tous les moyens sont mis dans le film.
Comment t'as réagi quand même, Alexandre, sur ce projet un peu fou, la première fois qu'Iris t'en a parlé?
J'étais comme un... C'était Noël, en fait. Enfin, quand elle me... Vraiment, c'était pas longtemps après le Bataclan. Les deux premiers textes que j'ai lus, ça m'a ramené dans quelque chose de très actuel, où c'était assez identifiant, donc j'avais trouvé ça touchant. Je trouvais touchant que un siècle et demi plus tard, on revivait les mêmes problématiques. Donc je trouvais que c'était un moyen, par le passé, de parler du présent. Et après, le projet était tellement ambitieux que j'étais vraiment comme un foufou et j'avais ultra envie de le faire. Je suis rentré très tôt dans le projet. Iris a fait commencer le casting bien 2 ans avant le début du tournage. En fait, c'était en train d'écrire qu'on était déjà en casting, de manière à pas perdre trop de temps ensuite pendant la préparation qui allait être compliquée. Voilà, c'est un projet moi, sur lequel je me suis engagé 2 ans et demi avant aujourd'hui.
Tu as eu quelques appréhensions sur, évidemment, le premier épisode que vous allez voir, là, puisque vous allez voir, le premier est vraiment consacré à l'incendie dans toute sa dimension, avec des images catastrophes incroyables. Est-ce que tu as eu quelques appréhensions, notamment sur la réalisation de ce premier épisode, ou des questionnements, du moins?
L'appréhension, oui, parce qu'on a envie de bien faire les choses, mais l'appréhension, j'aurais la même sur chaque film, en fait, parce que j'essaye toujours de faire des films qui vont me plaire. Et là, le jouet était tellement grand que c'est plus de l'excitation et du plaisir que de la peur. L'appréhension, je me la mets tout seul sur chaque film. Et celui-ci, c'était vraiment du gros, gros plaisir. Alors, le matin, quand je venais sur le bazar, c'était vraiment un gros jouet, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est... Il y avait un jeune stagiaire qui commençait, c'est son premier film. Les temps de préparation étaient longs pour le feu. Et je lui ai dit, ouvre bien tes yeux aujourd'hui. Il y a 150 figurants devant toi, il y a du feu. Alors, le nombre de figurants que tu vois, généralement, c'est sur un 52 minutes. Enfin, c'est sur un 2 fois 52 minutes. Donc, c'était vraiment jouissif. Et ça a été un projet ultra fédérateur. Toute l'équipe était heureuse de travailler sur ce projet et de le faire. On a vécu 6 mois vraiment forts, intenses. À la fin du tournage, tout le monde était en larmes, mais c'était sincère. Enfin, c'était une aventure humaine et ça avait été la même chose sur Elise. Je ne sais pas si c'est dû aussi aux productions d'Iris, mais c'est vrai que tout le monde était très ému et tout le monde très motivé, très impliqué sur ce projet.
Quasiment 100 jours de tournage. Une association avec Netflix, c'est une première aussi, puisque une fois la diffusion sur TF1 faite, la série va être disponible sur la plateforme Netflix, qui va lui donner un rayonnement mondial et par la même occasion va permettre de faire découvrir au monde cette histoire assez méconnue en fait de cet incendie.
Tout à fait, et au-delà de ça, va faire découvrir nos talents, notamment les comédiens, qui vont voyager dans 140 pays et c'est ça qui est vraiment formidable. C'est une vitrine pour nos talents et je suis très très heureuse de cette association, très fière d'avoir réussi avec les équipes de TF1 Studio et de Netflix d'inventer un nouveau modèle économique pour avoir une ambition très très forte pour nos fictions.
Surtout que TF1 sont les premiers à collaborer avec Netflix, c'était le cas avec Marseille, et c'est la deuxième collaboration, donc c'est bon pour l'avenir, et c'est très bien de travailler ensemble, il vaut mieux travailler ensemble que séparément, c'est une certitude.
Je suis bien d'accord avec vous. Il faut se mettre d'accord, il faut trouver ce que j'appelle un win-win deal, un gagnant-gagnant. Dans notre association avec Netflix, tout le monde est gagnant, en fait, à la fois TF1, eux et moi en tant que société de production.
Est-ce que c'était évident, Adrienne, Rose et Alice, Camille Lou, Julie Debona et Audrey Fleureau, le costume leur va si bien, toutes les trois?
Ah, c'était... on peut même pas dire qu'on a passé des castings, parce que c'était elles trois, oui. Voilà.
Complètement, c'est ça. Audrey, j'avais déjà bossé avec elle quand j'étais assistant sur Kaamelott, et je rêvais de rebosser avec elle, enfin de bosser avec elle un jour en tant que metteur en scène. Julie, j'ai bossé avec elle sur Elise, et dans notre tête, c'était assez clair qu'on voulait partir avec elle. Camille Lou, je la connaissais pas. On s'est rencontrés, pour moi, ça a été une révélation. Je trouve qu'elle porte son rôle à merveille. Elle s'émancipe dans son rôle et sur le tournage, c'était vraiment chouette.
Elle dégage quelque chose, Camille.
L'émancipation de la femme, parce que son personnage a une vraie courbe. Elle part vierge de tout au début de l'histoire et en fait elle va grandir, prendre son destin en main, peut-être plus que les deux autres qui sont un peu plus âgés en fait dans l'histoire, et elle véhicule quelque chose de noble tout au long de la série et elle le porte à merveille.
Alors, c'est une série très féministe, on va vraiment découvrir le destin de ces trois femmes entre usurpation d'identité, entre émancipation, mais il y a aussi quand même quelques hommes. On va parler d'Antoine Duléry bien évidemment, de Stéphane Guillon.
Et Victor Meuteleux, qui est notre Victor aussi dans la série. Il y a Aurélien Vic, le mari de Rose, donc de Julie Debona, qui sont des beaux personnages, parce que tout à l'heure, on parlait de la lâcheté des hommes. Il y en avait qui étaient lâches, et Théo Fernandez interprète Julien, le fiancé de Alice, qui effectivement s'avère être un homme lâche. Mais il y a aussi des beaux personnages masculins. Ce qui nous a permis d'avoir des très beaux comédiens comme Gilbert Melki, Antoine Duléry, Stéphane Guillon, Gilles Cohen, et donc les deux jeunes, Théo et Victor, entre autres.
Et la Trémoy qui fait son apparition dans l'épisode 5, Sylvain Dieuhad, je suis désolé si j'écorche un petit peu ton nom, mais voilà, il y a un personnage qui arrive dans l'épisode 5 qui remet une petite relance. Je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà, ce sera encore une autre facette de la gente masculine.
Quel a été ton plus beau souvenir de tournage, Alexandre, en réel?
Il y en a trop. Vraiment, c'est un rêve éveillé, le tournage. Quand je vous dis vraiment qu'il y avait une cohésion, qu'on prenait tous du plaisir, c'est pas forcément l'incendie, parce que l'incendie c'était des prouesses techniques. Peut-être l'incendie, je me suis peut-être le plus ennuyé au final, parce qu'on donnait un plan et pendant 2 heures, il fallait faire autre chose. Du coup, on préparait un peu la suite. Ça a été ultra fort avec les trois filles et avec Florence Pernel aussi, qui fait pas partie des trois héroïnes, mais qui est un personnage très important, qui est la maman d'Alice dans le film. Il y a eu beaucoup, beaucoup de belles choses humaines. C'est ça que je retiens en fait. Une aventure humaine forte, et je crois que cette humanité se ressent dans la série.
Continuons à parler dans un instant. Moi, ce qui m'a frappé aussi, évidemment, c'est le premier plan d'épisode 2, sans Notre-Dame. Vous avez eu chaud, c'est le cas de le dire. Parce qu'un peu plus, il n'y avait plus la flèche. Alors, il aurait fallu la reconstituer peut-être à l'informatique. Mais c'est beau de revoir Notre-Dame de façon naturelle, comme ça.
À la base, ça devait être un cut. Enfin, tu aurais pas dû avoir de fondu. Et le film, quand elle a monté le film, ça devait être dans cet ordre-là. Et comme ça avait brûlé entre-temps, on s'est dit, on va faire un petit fondu. Et ça fait un petit hommage à Notre-Dame.
Oui, évidemment, on pouvait pas le prévoir. On est peut-être une des dernières fictions à voir Notre-Dame intacte. C'est un concours de circonstances, de malheureuses circonstances. Mais on est très heureuse d'avoir ces images-là, ouais.
Je crois que vous et Valérie Donzelli sont les deux derniers, effectivement, à avoir proposé des images de Notre-Dame intacte. Merci. On va continuer à en parler dans un instant. On va écouter la bande-annonce. Le bazar de la charité, ça débarque sur TF1. C'est l'événement, on peut le dire, de cette semaine et l'événement de la saison pour TF1. Merci à tous les deux, Iris. Merci beaucoup aussi, Alexandre. Et je vous dis bonne chance pour les audiences demain matin. On sera là, bien évidemment, pour vous soutenir pendant ces 4 semaines.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.
Bienvenue au bazar de la charité.
Il y a un problème ?
Qu'est-ce que c'est ?
Tout est brûlé en une demi-heure. Pas d'une centaine de victimes. Que des femmes de la haute société leur bonne, aucun homme.
J'aurais dû y être, moi, au bar. J'aurais pu être une de ces malheureuses.
Vous nous avez poussés. Vous nous avez marché dessus.
De qui tu parles, Alice ?
Ben, des hommes.
Je peux plus vivre avec lui. C'est un monstre. Il ne me laissera jamais revoir Camille. Par contre, s'il croit que je suis morte, là, ça change tout.
Plusieurs témoins disent avoir entendu une explosion.
L'attentat, vraiment, ça arrangerait du monde.
L'homme qu'on accuse d'avoir posé une bombe au bazar.
Retrouvez-les.
C'est lui qui m'a sauvé la vie. Elle est innocente.
Ma fille est morte dans l'incendie.
Vous voulez que je prenne la place de votre fille ? Vous êtes complètement folle.
Je sais qui tu es.
Allez, dans un instant, on est de retour avec Camille Lou pour terminer cette émission spéciale Bazar de la Charité. Pour terminer, alors surtout, ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Que cet homme s'est comporté comme un héros pendant l'incendie.
Purifiez, vous verrez que je dis la vérité.
Jusqu'où t'es prêt à aller pour cet homme ?
J'irai jusqu'au bout.
Événement, le bazar de la charité, prochainement sur TF1.
Voilà, la bande-annonce annonce la couleur un petit peu hein, sur ce bazar de la charité. On a une des 3 héroïnes de ce bazar qui nous rejoint justement, c'est Camille Lou. Bonjour Camille.
Bonjour, bonjour.
Je suis très heureux de te retrouver Camille pour parler de cette fiction événement, un rôle incroyable. On va te voir beaucoup souffrir dans ces 2 premiers épisodes, surtout le premier, je pense, et une aventure incroyable, le bazar de la charité.
C'est une aventure qui m'a bouleversée vraiment. Pour moi, il y a eu un avant, un après personnellement. Intérieurement, trop d'émotions, vraiment trop d'émotions, des rencontres incroyables, notamment le réalisateur Alexandre Laurent qui est juste exceptionnel, qui est un homme en or, que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup et qui fait du travail en or, que ce soit aussi même les auteurs, la productrice Iris, enfin... C'était vraiment des rencontres magnifiques. Et puis tous les acteurs, on avait tous envie de donner le meilleur de soi pour ce projet.
Tu as su que tu allais faire cette fiction. Est-ce que premier effet, ça a été de te documenter un peu sur cet incendie qui a eu lieu en 1897 ?
Ouais, effectivement, parce que moi, je ne connaissais absolument pas cet incendie. Mais c'est quand même, d'ailleurs... accablant que peu de gens le connaissent, qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en cours. Je me dis pourquoi on n'a pas appris en cours d'histoire, parce que ça quand même, je le répète souvent ça, mais je trouve que c'est important de le dire. C'est suite à cet incendie qu'il y a eu des issues de secours, etc., parce qu'il n'y en avait pas avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont tous été bloqués, qu'ils ont tous cramé, parce que c'est horrible comme terme, excusez-moi hein.
Il y a plein de choses comme ça quand même, qui sont méconnues et c'est dommage. Et la fiction, justement, ce rôle-là.
Les gens brûlent et vivent parce qu'il n'y avait pas d'issue de secours. Ils sont bloqués, ils sont auto-bloqués dans cette
fournaise.
C'est atroce. Mais oui, du coup, mais je suis allée écouter des témoignages, etc. C'est vrai qu'il y avait un témoignage d'une dame,
en fait, je sais plus si je crois que c'est 50 ans après les premières émissions radio, justement, c'est une émission radio, où une dame, donc, qui est âgée, maintenant, qui est âgée au moment de l'interview, je crois qu'elle a genre 70, 80 ans, et qui dit, bah, j'avais 8 ans, quand je crois que c'est 8 ans, je ne sais plus l'âge qu'elle dit exactement, mais durant l'incendie, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais à côté du cinématographe, et d'un seul coup, j'ai entendu un boum, et j'ai cru que c'était la fête, moi, je croyais que la fête continuait, etc. Et elle le raconte avec sa petite voix, et puis elle, c'est bouleversant ce qu'elle dit, elle dit, voilà, j'ai une espèce de cendre, enfin je ne sais plus le terme, qui lui arrive dans les cheveux, ses cheveux prennent feu. Elle était enfant, elle avait 8 ans, et elle sort, c'est une des premières à être évacuée, alors que l'incendie n'avait pas encore pris toute son ampleur. Mais rien que ça, voilà, c'était fou d'écouter ce qu'elle avait vécu, quoi.
Alors, on va parler du personnage d'Alice dans un instant, mais la première question que j'ai envie de te demander aussi, c'est quand tu as vécu ce tournage d'incendie qu'on va voir dans le premier épisode, là justement, qui a duré une dizaine de jours, et que tu as vu le rendu à la première projection, tu t'es dit quoi ?
Alors pour moi, la première projection des épisodes, ma découverte, c'était à La Rochelle. Donc c'était fantastique de pouvoir faire ça avec le public. J'aurais pu le découvrir avant, et j'avais refusé parce que j'avais vraiment envie... J'ai jamais eu cette chance de découvrir avec un public, et du coup c'était vraiment incroyable. Et
sur grand écran.
Et sur grand écran, et puis de sentir la réaction des gens, c'était fort, quoi. C'était... Et puis j'ai pleuré tout du long parce que... Bon, déjà, moi, l'histoire me touche énormément, et parce que j'ai vraiment mis tout mon cœur, et c'était touchant de voir enfin tout ça prendre forme. On a tellement mis toute notre âme dans ce projet, c'était beau de le vivre comme ça.
On va parler d'Alice un petit peu. Comment tu la définirais, Alice ?
Bah, Alice, moi, alors c'est une jeune bourgeoise, je pense que c'est important de donner son statut. Mais c'est une jeune qui est pleine de vie, qui a envie de découvrir la vie. L'amour, des baisers fougueux, voilà, la soif de tout ça, et en même temps, elle est enfermée dans ses règles, dans ses valeurs que lui inculque son père, enfin sa famille, et elle a cette bonne, donc Rose, qui est un peu sa meilleure amie, sa deuxième maman, je sais pas,
sa dévouée,
sa sœur, mais pour elle, c'est comme sa sœur, elle se confie, etc., et elle lui donne encore plus envie, il y a une relation, une complicité qui est très forte entre elles, et elle a ce petit côté rebelle, je pense, qu'entretient un petit peu Rose aussi. Je l'aime beaucoup, Alice, parce qu'elle me ressemble un peu. Je suis très dans les règles. J'aime les règles, j'aime suivre les règles. Mais j'ai un petit fond parfois en disant, j'ai envie de faire des petites bêtises, quoi. Mais pas qui ne sont pas des bêtises. Mais voilà, quand elle va avoir un baiser fougueux avec son fiancé, enfin fougueux. Vous verrez, hein, en même temps, une jeune de 20 ans, un baiser fougueux à cette époque. C'est pas les mêmes baisers fougueux qu'aujourd'hui. Et voilà, pour elle, c'est quelque chose de complètement dingue d'avoir embrassé cet homme à côté de gens comme ça, en présence d'un public qui est en train de regarder. Oh là là, c'était voilà, mais c'est beau, et je trouve ça tellement, je la trouve touchante, Alice, parce que voilà, c'est une jeune fille qui a soif de vivre, quoi. Et cet incendie va la bouleverser complètement et va remettre en question tout son mode de vie, tous ses concepts dans lesquels elle vit et ses valeurs qu'on lui a inculquées, ça, tout va changer dans sa tête. Parce qu'elle a vu des choses qui vont la faire changer, en fait, tout simplement.
Est-ce que le costume, ça permet de se mettre plus vite dans le personnage, de pouvoir plus l'intégrer ?
Ah bah, quand on serre les lacets du corset, on passe direct au 19e siècle. Ça, c'est bim, le lacet serré, c'est bon, j'ai changé d'époque. Mais c'est aussi un truc qui est chouette avec le costume d'époque, c'est que le costume d'époque, c'est particulier, ça. Vraiment, voilà, c'est pas comme un costume, je mets une veste en cuir, un petit jean, etc. Non, tout de suite, ça nous emmène autre part. Donc, on rentre dans la peau d'un personnage directement, quoi. C'est génial.
C'est ça qui est chouette. Meilleur souvenir de tournage pour toi, Camille ?
Oh là là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. L'incendie est un souvenir incroyable parce qu'il m'a vraiment bouleversée, parce que c'était une histoire vraie, parce que voilà, pour beaucoup de choses. Et puis en fait,
ça a dû être éprouvant pour toi, hein, parce que quand on voit le rendu à l'écran, et ça a dû être éprouvant quand même.
Bah c'est vrai que c'était difficile parce que en fait, on se rend même pas compte, mais certaines scènes, des scènes qui sont extrêmement intenses dans les cris, dans les hurlements, on vient de manger, on vient de faire une pause, etc. Puis on reprend ce moment-là. Et là, faut se replonger à chaque fois dans une émotion qui est vraiment intense. Après, au final, avec le feu autour, l'histoire était tellement prenante que ça allait. C'était assez simple, pas simple, mais ça allait assez vite de se remettre. On était tout de suite pris par l'histoire, en fait.
En tout cas, une belle histoire que l'on va découvrir sur TF1. Des projets, musique, Camille, pour 2020. Qu'est-ce que... Allez, raconte.
Non, musique, pas encore. En fait, j'ai J'ai vraiment voulu mettre la musique de côté parce que j'ai envie de revenir plus tard. Parce que je sens en fait que je suis vraiment en train de changer, de grandir. Je grandis, c'est toutes ces émotions, toutes ces expériences en tant que comédienne me font vraiment changer. Je sais pas, intérieurement, il se passe beaucoup de choses émotionnellement parlant. Et je sais que dans quelques temps, quand je me sentirai prête, je ferai un album où je me suis trouvée en fait. Donc ça sera plus pareil.
Bon, on sera là. En tout cas, tu le sais, t'es la bienvenue quand tu le veux dans l'émission. Le Bazar de la Charité, c'est cette semaine sur TF1. C'est parti pour 4 semaines de folle aventure que l'on va passer avec Alice, Adrienne, Rose et les autres. Alors, ne le manquez pas, évidemment, c'est le rendez-vous qu'on vous donne. C'est la fiction événement de TF1 pour cette saison. Merci Camille.
Merci à toi.
Et à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Je peux plus vivre avec lui, c'est un monstre. Il ne me laissera jamais revoir Camille. Par contre, s'il croit que je suis morte, là, ça change tout.
Plusieurs témoins disent avoir entendu une explosion.
L'attentat, vraiment, ça arrangerait du monde.
L'homme qu'on accuse d'avoir posé une bombe au bazar.
Retrouvez-les.
C'est lui qui m'a sauvé la vie. Il est innocent.
Ma fille est morte dans l'incendie.
Vous voulez que je prenne la place de votre fille? Vous êtes complètement folle.
Indiscrétion, scoop,
scoop,
news, tout de suite, l'infomédia.
Et dans l'infomédia de cette semaine, voici les titres que l'on va développer jusqu'à vendredi dans la quotidienne de Chute en écoute la télé. On parlera d'M6 qui va lancer sa toute nouvelle mini-fiction, Prise au piège, une nouvelle mini-série avec Élodie Fontan et Jean-Hugues Anglade que l'on retrouvera à partir du mercredi 4 décembre à 21h05. Et le lundi 2 décembre prochain à 18h50, les princes et les princesses de l'amour seront de retour sur W9 pour une nouvelle saison inédite. Pour cette nouvelle saison, la recherche du grand amour ne va pas se passer comme prévu. Être un prince ou une princesse de l'amour, ça se mérite. Et c'est le mardi 3 décembre à 21h05 que France 2 diffusera un nouveau numéro de Rendez-vous en Terre Inconnue, présenté par Raphaël de Casabianca. Pour ce nouveau rendez-vous, l'animateur emmènera Estelle Lefébure pour le nord du Kenya. Et enfin, dans les prochaines semaines, France 2 diffusera la quatrième saison de la série 10% qui est actuellement en tournage. Dominique Besnéard a dévoilé le nom des personnalités qui rejoindront le casting de cette nouvelle saison. On les développera dans la quotidienne cette semaine.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, bah j'aurai le plaisir de vous retrouver pour reparler du Bazar de la Charité, évidemment la fiction qui débarque ce soir sur TF1 avec ce coup-ci eh bien, une autre héroïne de la série, c'est Audrey Fleurot qui sera notre invitée exceptionnelle. On parlera également du carton du film La Belle Époque qui est sorti le 6 novembre dernier au cinéma avec Michael Cohen qui sera notre invité. Ce sera également une spéciale Classe Unique, la fiction qui débarque sur France 3 le mardi 26 novembre. On recevra à cette occasion Sam Carman, Clémentine Célarier, Geoffrey Platel, entre autres. Ce sera également une spéciale Trauma, la fiction qui débarque sur 13e rue. On recevra à cette occasion Margot Bansillon qui sera avec nous, avec le réalisateur de cette toute nouvelle série création originale pour 13e rue.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain pour les quotidiennes aux environs de 7h20, 8h45 et 11h sur Radio Bulle. Pour l'hebdo, retour lundi prochain à partir de 19h. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Beauvais près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur réal-chocolat.com. Réal Chocolat fait naître la gourmandise.
Chut, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.